Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Julia.
Bonjour Mélanie.
Contente que vous soyez revenue.
Également.
Allez, bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être feel good. Ici, on chouchoute tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi en direct avec vous. Alors ce matin, Julia, quelle sera notre grande thématique ?
Eh bien, ce matin, on va s'intéresser aux capacités extraordinaires des personnes atteintes de dyslexie. Et oui, on parle souvent de la dyslexie comme d'un handicap, mais si ce trouble était finalement une force. C'est ce qu'on va détailler ce matin. On va voir aussi comment ne pas passer à côté chez nos enfants, comment les dépister le plus tôt possible, quels sont les signes qui doivent pousser les parents à faire un bilan. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous serons accompagnés ce matin par Catherine Zobouyan, docteure en neuropsychologie et directrice des centres Cogitos à Paris, qui lutte contre l'échec scolaire, ainsi que Guillemette Faure, auteur du livre 10 et célèbre aux éditions Casterman.
Ensuite, à 11h45, ce sera comme chaque jour notre partie tendance avec notre équipe de chroniqueurs. Il y aura Maud Ravier, notre experte beauté. Aujourd'hui, elle va nous apporter ses meilleurs conseils pour bien se maquiller en été. Et puis Nathalie Le Breton sera également avec nous pour sa chronique lecture jeunesse du mercredi. Ce matin, elle a choisi de nous présenter des livres qui vont nous aider à expliquer aux enfants ce qu'est l'adoption. Voilà, bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good sur Europe 1. Et voici notre question du jour ce mercredi. Comment la dyslexie peut-elle rendre plus fort ?
Si je vous dis Mika, Steven Spielberg ou encore Léonard de Vinci, ils ont ce point commun, ils sont dyslexiques. Ça vous étonne ? Alors bien sûr, ce trouble peut être compliqué à gérer, surtout durant la scolarité. Mais en fait, être dyslexique demande une grande capacité d'adaptation. On en parle trop peu et donc offre certaines capacités. Des personnes concernées ont souvent des ressources insoupçonnées et une formidable créativité. Alors avant de rentrer dans le détail, lui aussi, il a une grande imagination et beaucoup de talent. Je ne sais pas s'il est dyslexique, qui sait ? Bonjour non. Clément Lanoux.
Bonjour, je ne sais pas si j'ai des ressources, c'est surtout ça, mais chaque jour...
Vous avez des lunettes par contre aujourd'hui.
Tout à fait.
Un peu fatigué peut-être.
Ça peut être un problème de lentille, on ne sait jamais. On est dans une émission santé, on en parlera lors d'une autre émission. Aujourd'hui, on va parler de la dyslexie. Justement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que les Français sont au courant ? Je suis parti avec un micro dans la rue et je leur ai tout simplement posé la question. Pour vous, c'est quoi ?
Ouais, moi je saurais pas dire la dyslexie. Non, la dyslexie.
On confond les D, les B, les petits sons comme ça qui se ressemblent.
C'est de pas réussir à... Enfin, c'est de confondre les lettres.
Bon, on va faire le point tout à l'heure, vous allez voir, on va vous expliquer ce que c'est. On va vous dire justement que c'est sûrement un grand avantage, on va voir. Et puis je suis tombé par hasard sur quelqu'un qui en connaissait même plus que moi, puisqu'elle m'a appris ça.
Il y a 3 dyslexiques célèbres, vous voulez les connaître ?
Alors oui, j'en ai entendu tout à l'heure, les 2 premiers.
Bon, alors, il y en a 2 qui ne sont plus de ce monde, mais il y a Einstein, E égale MC2, voilà, grand, qui était dyslexique, avec un QI à 152, si je ne me trompe, et voilà, très intelligent, donc ça motive un peu mes patients pédiatriques. Le deuxième, Léonard de Vinci, et le troisième, on en parle beaucoup en ce moment.
Est-ce que vous avez une idée
Mika,
qui c'est ?
Mika, non ?
Non, c'est pas Mika, attention !
On l'a vu avec Dustin Hoffman dans Rain Man, et on
le
voit beaucoup en ce
Tom
moment
Cruise.
Dans les avions de chasse.
C'est pas vrai,
Réponse quand même.
Ouais, voilà, Tom Cruise, grand dyslexique aussi. Ouais. Ben voilà, la dyslexie n'empêche pas de réussir.
Tom Cruise qui est aujourd'hui dans les salles, hein, pour aller voir Top Gun Maverick, bien sûr.
Et donc, alors parfois, on ne sait pas si on est dyslexique ou pas. Il y a des moyens, on en parlera tout à l'heure, de le déceler. Parfois, il y a juste des mots compliqués. J'ai demandé quel est pour vous le mot le plus compliqué, quelle que soit la langue, à prononcer. Et il y en a un qui a gagné clairement.
Worcestershire sauce.
La quoi ?
À la Worcestershire sauce.
C'est dur à dire justement, alors c'est quoi ça ?
C'est une sauce, ouais. C'est juste une sauce qui a un nom imprononçable. Essayez.
Alors c'est une sauce anglaise, je voulais imprimer. Comment
Worcestershire sauce.
Comment ?
La sauce.
La sauce,
ouais,
voilà.
Passe-moi la sauce.
Voilà, tout à fait. Ah bah il y a du boulot, merci d'être là alors.
Bien, merci beaucoup Clément. On va maintenant commencer ce focus sur la dyslexie, à traiter de la façon la plus positive qui soit ce matin avec nos experts ici en studio. Je vous présente d'abord Catherine Zobouyan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neuropsychologie, vous dirigez également les centres Cogitos à Paris qui luttent contre l'échec scolaire. À côté de vous, il y a aussi Guillemette Faure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre 10 et célèbre, publié aux éditions Casterman. Alors Catherine, on va déjà commencer par situer justement notre sujet, la dyslexie. C'est ce qu'on appelle un trouble de l'apprentissage. D'abord, une définition peut-être. Qu'est-ce qu'est la dyslexie concrètement ?
Alors, la dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage qui touche l'apprentissage de la lecture. Et c'est un trouble sévère, spécifique. Sévère parce que c'est pas un retard, c'est vraiment un trouble qui touche dès les premiers temps l'enfant, dès ses
Donc
premiers
apprentissages. Donc, confondre les sons, c'est ça c'est...
Alors, on va voir
que... C'est pas juste où est-ce que ça se sauce, hein.
Non, mais c'est vrai que ça a un lien. C'est-à-dire que, en tout cas, les études montrent que c'est des enfants qui ont du mal à manipuler, à reconnaître les sons, la conscience phonologique, plus précisément. Et ça, ça se met en place à 4 ans, 4 ans et demi. Et que dès ces premiers pas où on va percevoir, manipuler les sons, bah, c'est des enfants qui ont du mal à le faire.
Clément.
Et justement, ça vient d'où ? Est-ce que c'est de la diction, de la vision ? Est-ce que c'est le cerveau ?
C'est le traitement auditif des sons. Et donc, du coup, c'est au niveau neurodéveloppemental, au niveau du cerveau, au niveau perception.
Et c'est souvent, je crois, associé à la dysorthographie. Il s'agit de quoi, là, dans ces cas-là ?
Alors, comme vous l'imaginez, pour apprendre à lire, il faut donc bien identifier les sons et associer ces lettres à des sons. Et donc, du coup, quand on passe à l'écrit, forcément, le signe graphique et l'association du son est difficile. Donc, ça entraîne des difficultés d'orthographe, des difficultés de grammaire. L'enfant est saturé au niveau attentionnel et ne peut pas allouer son attention à tout.
Guillemette Fort, dans votre livre, vous dressez les portraits de 24 personnalités concernées par un trouble 10. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur ceux qui sont atteints de dyslexie. Déjà, pourquoi avoir voulu écrire ce livre ?
Comme vous vous en doutez, parce que j'ai un enfant dyslexique. Et en fait, je trouvais que les livres qui existaient pour les enfants dyslexiques, c'était des livres qui étaient faits pour être lus facilement, avec des interlignes assez grands, ou des livres un petit peu apitoyés, genre Max a un problème, il est dyslexique, c'est un peu plus difficile pour lui. Et autour de moi, j'entendais des histoires de, je sais pas, par exemple le patron Richard Branson, qui a beaucoup parlé de sa dyslexie, de ce qu'elle lui avait apporté, des chercheurs qui disaient, moi ça me permet de voir les choses autrement. Et je me disais, mais c'est dommage que les enfants dyslexiques n'aient pas connaissance de ces histoires et soient pas encouragés à chercher ce qu'eux, ils ont comme capacité différente.
Il y en a beaucoup, des enfants dyslexiques et des adultes dyslexiques. Combien à peu près en France ?
Alors, les chiffres varient, mais on peut dire que vraiment, les vrais troubles dyslexiques, c'est entre 3 et 5 %
de la population. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va continuer à s'intéresser à ce qu'est réellement la dyslexie. On vous propose un regard différent et surtout très positif ce matin sur ce trouble. Et si la dyslexie était finalement une chance, bien sûr, on ne nie pas les difficultés et même la souffrance de ces personnes. Mais ce que l'on veut mettre en avant aujourd'hui, ce sont les capacités extraordinaires et la créativité souvent sans limite des dyslexiques. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question, comment la dyslexie peut-elle nous rendre plus forts ? On le fait le point avec Guillemette Fort, auteur du livre 10 et célèbre, publié aux éditions Casterman. Et avec nous en studio également, Catherine Zobouillan, docteur en neuropsychologie et directrice des centres Cogitose à Paris. Catherine, avant toute chose, d'un point de vue scientifique, est-ce qu'on a identifié, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans le cerveau que ça se passe, qu'est-ce qui dysfonctionne alors dans le cerveau de ces personnes-là ?
Alors, c'est un traitement particulier des sons de la parole. Du coup, c'est des enfants, c'est des adultes aussi, ça continue à l'âge adulte, qui font des distinctions beaucoup plus fines des sons et qui ne se sont pas spécialisés au son de la langue.
Donc dans le cerveau, la zone qui gère probablement les sons, il y a des connexions qui ne doivent pas se faire comme les gens qui n'ont pas ce trouble-là.
Alors, en tout cas, on voit des anomalies au niveau des zones, en effet, dédiées au langage, qui est dans l'hémisphère gauche, où on voit qu'au niveau neuronal, il n'y a pas le même volume, pas la même quantité, et donc du coup, ça fait un traitement.
Mais rien à voir avec l'intelligence, on est d'accord, hein, au contraire, même parfois.
Bien sûr, parce que de toute façon, pour poser ce troubles et dans tous les troubles des apprentissages, il faut vraiment objectiver par ailleurs de très bonnes capacités dans le raisonnement visio-spatial, dans la mémoire. Donc, c'est pas du tout.
Ça peut être une bonne nouvelle finalement. On va continuer à en parler. Alors, Guillemette, vous dressez-vous à 24 portraits de 10 dans votre bouquin, dont des dyslexiques. Il y a par exemple l'actuel maire de New York, qui est un ancien policier, Eric Adams. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour lui à l'école ?
En fait, il a une enfance qui ressemble, une enfance scolaire qui ressemble à celle, j'allais dire, des 23 autres personnes dont j'ai fait le portrait, c'est d'avoir une scolarité difficile. Il entame quand même des études de droit. Et puis un jour, quand il est à la bibliothèque de son université, il entend quelqu'un qui écoute une émission sur les troubles d'apprentissage. Il a une espèce de déclic et il se dit « mais c'est moi ». Et alors qu'il se pensait nul, il avait été frappé par un enseignant quand il était plus jeune, il va se renseigner pour se faire aider à l'université. Ce que je trouve très intéressant dans le cas d'Eric Adams, le nouveau maire de New York, c'est que pour la première fois, on a aussi quelqu'un qui en a un peu une vision politique de la dyslexie. C'est-à-dire que là, il y a deux semaines, il a annoncé, et ça faisait partie de son programme pour la campagne des municipales, que tous les enfants des écoles de New York seraient testés. Mm-hmm. Et un de ses arguments pour ça, c'est qu'il dit que dans les prisons de New York, on estime qu'il y a entre 30 et 50% de dyslexiques.
Qui sont surreprésentés.
Et il y a aussi des études qui ont été conduites alors dans d'autres parties des États-Unis et en Angleterre qui montrent qu'il y a aussi qu'il y aura à peu près 50% de dys parmi les SDF.
Donc, c'est des gamins qui, s'ils ne sont pas, identifiés charge, à temps, ouais. Ils peuvent mal tourner, quoi.
C'est-à-dire que c'est le risque de décrochage scolaire, c'est le risque de relations difficiles dans la famille, c'est le risque de penser qu'on est nul. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les 24 personnes dont je fais le portrait, finalement, c'est des gens qui ont fait des bonnes rencontres. C'est des gens qui ont eu des parents qui ont toujours cru en eux, qui ont été poussés à creuser leurs forces. Mais je ne veux pas, avec ce livre, dire que tous ceux qui sont dyslexiques ont une bonne étoile. Parce que finalement, il y a aussi des gens...
Qui sont sur le bas côté de la route parce qu'ils n'ont pas été identifiés.
Il y en a beaucoup qui disent, mais en fait, tout le temps, j'ai cru que j'étais nulle. Quoi.
Catherine Zobouillon, justement, puisqu'on parle de dépistage, à partir de quel âge on peut arriver à le détecter, ce trouble chez notre enfant et qu'est-ce qui doit peut-être nous mettre déjà, nous, parents, la puce à l'oreille?
En fait, en vrai, maintenant, de plus en plus, on peut le détecter tôt. Et déjà, dans les maternelles, avec ces petites expériences de manipulation de son, de conscience phonémique, on peut voir que l'enfant a plus de mal, a du retard pour manipuler les sons. Par exemple, quand on lui dit route, goutte et barre, il ne fait pas la différence. Et là, c'est des signes d'appel qui vont faire qu'on va l'accompagner.
Alors justement, j'ai une question pour vous sur nos réseaux sociaux. Ouais. Une question, je crois, qui nous provient peut-être d'Inès. Non, pas d'Inès, je ne sais pas.
Séverine.
Séverine sur Instagram. Bonjour, mon fils de 8 ans attend son bilan orthophoniste pour diagnostiquer son éventuelle dyslexie. C'est ce qu'il faut faire, hein, je crois. Mais elle dit, les délais sont extrêmement long, comment faire autrement pour le diagnostic? Est-ce que c'est forcément un bilan ou comment on
Alors, c'est l'orthophoniste et un neuropsychologue parce que c'est important d'avoir une vision d'ensemble du fonctionnement de l'enfant pour vraiment aller voir qu'il y a des capacités préservées. Et donc, c'est vrai que les délais avec les orthophonistes sont...
C'est dingue, hein, c'est très, très long. Hein.
Très compliqué.
Donc, il faut attendre, il n'y a rien d'autre à faire.
Voilà, et déjà gagner du temps avec une psychologue qui va faire un bilan global d'ensemble et une neuropsychologue qui va tester déjà le langage et la lecture pour dire « Ok, là, il est vraiment très en dessous de son niveau d'âge de lecture et il faut l'aider, l'accompagner. »
Est-ce que le fait d'avoir des parents dyslexiques, d'être soi-même dyslexique, ça doit peut-être nous faire dire « Oh, il faudra que je surveille mon enfant plus facilement, c'est héréditaire d'une certaine façon ?»
Alors oui, il y a des chances. Alors, si on a un parent dyslexique, il y a 50% de chances que l'enfant soit dyslexique. Donc oui, c'est à surveiller.
On a une autre question sur nos réseaux sociaux. Est-ce qu'un enfant dyslexique aura plus de difficultés à apprendre une langue étrangère ou pas forcément? C'est Hélène sur Instagram. Ouais.
D'accord. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que déjà les sons de sa langue c'est pas évident et donc du coup pour avoir une autre langue et c'est difficile.
Guillemette, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, moi j'ai été frappée parmi les gens dont je fais le portrait avec qui j'ai de voir qu'il y avait des grandes différences là-dessus et je pense que ça tient aussi à la manière d'apprendre. C'est est-ce qu'on apprend par immersion ou est-ce qu'on apprend par les livres et la lecture et notamment. Je pense à Franck Gastambide qui dit qu'il a toujours du mal avec les langues étrangères, alors que le chanteur Mika, il en parle 5 ou 7. Enfin, ouais. Donc il y a des grandes
disparités.
Oui, mais je pense que ça tient aussi à la façon dont on est exposé aux langues.
On se rend compte que la musique a un effet très positif, presque de rééducation sur les sons. Et donc, du coup, peut-être que Mika, en faisant de la musique, justement, s'est aidé pour...
S'est rééduqué.
S'est rééduqué pour être dans la perception des nouvelles langues.
Il y a la musique, mais il y a avoir le sport aussi, parce qu'il y a Mohamed Ali dans votre livre qui était dyslexique. Et selon certains de ses biographes, ça aurait pu être un avantage. Comment on explique ça?
Alors, c'est ce qui est... donc, là où on, enfin, pour les gens qui sont de cette génération-là, c'est très difficile, effectivement, parce que ce n'était pas une époque... où c'était diagnostiqué. Mais on s'en est rendu compte parce qu'il était vraiment très très nul en orthographe. Ses amis de classe s'en souviennent. Ça a été une chance parce que du coup, il n'a pas été envoyé au Vietnam tellement c'est... Enfin, au début de la guerre, il n'était pas envoyé parce que ses scores de lecture étaient vraiment beaucoup trop faibles.
Donc il a pu bosser sa boxe.
Et en fait, ça correspond aussi à quelque chose qu'on observe, parce que ce que dit son biographe, chez beaucoup de dyslexiques, c'est la capacité à décrypter des signaux visuels très très rapidement. Et dans mon livre, je parle aussi de Lewis Hamilton, et il se trouve aussi que Jackie Stewart et Nelson Mangel, d'autres champions de Formule 1, étaient aussi dyslexiques.
C'est qui voit, par exemple, les
Stéphane
obstacles
de Groot,
avant
le
comique et comédien.
Il a été aussi champion de Formule 3000. Donc, il y a plein de gens comme ça qui ont cette espèce de capacité à voir les signaux beaucoup plus rapidement que
ça, c'est un atout dans ces cas-là. Eh bien, merci à toutes les deux. On n'en a pas terminé avec notre sujet du jour, la dyslexie, qui n'est pas une fatalité. Ce matin, on met en avant, eh bien, justement, les ressources insoupçonnées de ces personnes, de ces enfants qui fonctionnent un petit peu différemment. Certes, ils ont souvent plus de difficultés à l'école, mais bien accompagnés, il faut le dire haut et fort ce matin, ils peuvent finir très, très haut. Alors, pour en savoir plus, restez bien à l'écoute sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce matin, on découvre en quoi la dyslexie, ce trouble de l'apprentissage, peut être au final une vraie force. Et pour en parler, elles sont toujours avec nous dans ce studio. Guillemette Faure, auteur du livre « 10 et célèbre » publié aux éditions Casterman. Avec nous également Catherine Zobouillan, docteur en neuropsychologie et directrice des centres Cogitos à Paris, qui lutte contre l'échec scolaire. Alors, on a parlé avant la pause de tout ce qui était diagnostic. Imaginons que ça y est, hein, vous le savez, votre enfant est dyslexique. Justement, comment bien lui expliquer à l'enfant, ce que ce trouble implique? Et pour en parler, Catherine Viesse-Dufaux est au téléphone avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes infirmière de formation et l'auteur du livre « J'ai des troubles 10 et alors » chez Deux Boucs Supérieurs. Comment on explique alors justement un enfant de 7-8 ans qu'il est dyslexique? Quels mots vous recommandez?
Alors, bah déjà, les vrais mots, on lui explique tout simplement, voilà, on emploie des mots de vrai, hein, de dyslexie. Oui, tu es dyslexique, mais c'est surtout, on va essayer de pas mettre trop de charges émotionnelles lourdes derrière, en fait, c'est plus ça l'important, je dirais. Et surtout de lui dire qu'il n'y a rien de grave là-dedans, que ce n'est pas de sa faute.
Et que ce n'est pas, ce n'est pas une maladie, hein, vous insistez beaucoup dans le livre là-dessus, hein.
Et que ce n'est surtout pas une maladie, effectivement. Donc, d'un côté, ça veut dire que ça ne se guérit pas forcément. Donc, c'est pas parce qu'on va prendre des médicaments que après ça n'existera plus. Mais en même temps, c'est pas contagieux. C'est pas quelque chose. C'est un état. Alors, ça peut être un handicap qui va rester du coup présent plus ou moins de façon importante dans leur vie, mais que c'est pas une fatalité non plus et qu'on peut très bien vivre avec. D'ailleurs, vous en parlez très bien depuis tout à l'heure. Voilà.
Et Catherine, un autre point important que vous mettez en avant, c'est que non, un enfant dyslexique n'est pas bête, voire même c'est tout le contraire. Comment on peut expliquer ça à nos enfants, justement ?
Ah ben oui, sur le coup, c'est plutôt simple, ça. Effectivement, il faut le livre de Guillemette, par exemple.
C'est vrai, tous ces exemples de gens célèbres qui ont réussi, c'est vrai que pour l'identification de nos enfants, ça doit être important, non ?
Ah oui, et il faut aussi leur expliquer que donc ça existe et qu'il y en a plein qui ont réussi, mais surtout il faut leur montrer dans la vie de tous les jours aussi et leur prouver qu'eux aussi ils en sont capables. Donc essayer de mettre en valeur tout ce qu'ils arrivent à faire avec cette créativité incroyable, cette inventivité qu'ils ont, cette façon de voir le monde aussi qui est différente avec cet imaginaire très présent souvent. Souvent c'est des enfants aussi qui sont doués à l'oral. Donc, Donc il faut s'appuyer en fait sur toutes ces choses qu'ils arrivent à faire et les mettre sur de la musique, vous en avez parlé, sur de la danse, sur du théâtre, sur des choses artistiques où ils sont très doués.
Et c'est leur point
merci
fort.
Merci beaucoup Catherine Viesse-Dufaux d'avoir été avec nous. Justement, on parle de gens très doués qui sont néanmoins dyslexiques. Guillemette, vous parlez notamment de Léonard de Vinci qui était lui aussi dyslexique. Alors j'imagine qu'il n'a pas été diagnostiqué à son époque, mais il s'en est super bien tiré quand même.
Et je ne l'ai pas interviewé personnellement, lui, contrairement aux autres. Mais en fait, Léonard de Vinci...
Mais comment on l'a su? C'est ça que je me demande.
En regardant les chercheurs qui s'en sont aperçus, ils ont travaillé sur ses écrits. Et Léonard de Vinci fait quelque chose de typique des dyslexiques. C'est de le même mot dans une dictée, un dyslexique peut l'écrire avec 9 orthographes différentes, ce qui était son cas dans ses codex. Après, il y a aussi son écriture inversée. Une chercheuse s'est rendue compte que des dyslexiques arrivaient beaucoup plus facilement à écrire dans le sens.
On pensait que c'était des messages codés, alors il y en avait sûrement.
Voilà,
mais
il y a
aussi,
une histoire de passage, cerveau gauche, cerveau droit, je pense que vous connaissez ça mieux que moi, mais qui fait que y a beaucoup de dyslexiques qui sont ambidextres, ce qui était aussi le cas de Léonard de Vinci. Et en fait, dans ses textes, il parle de ses complexes par rapport à l'écrit, parce qu'il n'a jamais réussi à apprendre le latin, ce qui fait qu'il a été envoyé en apprentissage plus tôt. Mmh. Et finalement, est-ce qu'il faut regretter que Léonard de Vinci ait été envoyé chez un maître de peinture plus tôt? Non.
C'est clair.
Alors Catherine, d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas guérir véritablement de la dyslexie. Donc le but, j'imagine, c'est de donner des ressources à l'enfant pour apprendre justement à compenser. Avec quel genre d'exercice, par exemple? Comment on peut les aider?
Alors, c'est des exercices faits par les orthophonistes qui sont spécialisés pour manipuler le son, pour entraîner la voix de lecture, pas à pas. Et c'est comme un entraînement et du coup, ils compensent beaucoup, en effet, comme vous l'avez dit. Mm-hmm. Mais il y aura toujours cette
lenteur.
Ça
les fatigue, non ?
Ça les fatigue. Il y aura toujours plus ou moins cette lenteur. Mais voilà, la voix de lecture devient de plus en plus efficace.
Justement, on a une question sur Instagram de Caroline qui nous dit « Richard Branson est également TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité. Est-ce que la dyslexie va de pair avec le TDAH et inversement ?»
Ben, c'est vraiment l'enjeu de faire un bon diagnostic, c'est-à-dire que la dyslexie fatigue, puisqu'on a, rien ne s'automatise.
Donc on compense, donc on se
crève. On compense, donc on se fatigue. Donc ce n'est pas un vrai trouble de l'attention. Par contre, s'il y a un trouble de l'attention... Le trouble de l'attention va impacter tous les autres apprentissages, donc on va d'abord soigner ce trouble de l'attention en priorité.
Oui, je vais rajouter quelque chose aussi sur Richard Branson, qui est aussi dans le livre, c'est qu'il a fait énormément pour populariser l'idée de la dyslexie chez les entrepreneurs. On sait qu'il y a 35% des entrepreneurs, il y a une étude américaine qui avait été faite, qui sont dyslexiques. Et une des raisons pour ça, ce qu'il explique, c'est que comme ils sont conscients de ce qu'ils ne savent pas faire, ce sont des gens qui délèguent très très facilement et qui savent, qui vont apprendre à s'entourer des gens qui peuvent les aider sur tel ou tel
point.
C'est
pour ça que ça devient des grands entrepreneurs, c'est génial.
On dit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec vous Guillemette, mais je crois que vous dites que chez ces enfants qui ont des difficultés donc, d'apprentissage, les émotions sont au cœur de tout, c'est-à-dire que plus ils auront des parents encourageants, des professeurs encourageants, plus ces enfants progresseront. C'est prouvé ça vraiment?
Bah oui, vraiment, pour tous les enfants, mais encore plus pour les enfants qui ont ces troubles des apprentissages, l'environnement a des effets bénéfiques sur l'attention, sur les capacités à se connaître, dans les stratégies, et ça a des vrais effets sur le cerveau, en fait.
Et d'ailleurs, en parlant des aménagements, on peut peut-être en faire aussi à l'école, non ? Je crois qu'on peut demander à l'école d'établir des choses un peu différentes pour nos enfants.
Oui, bien sûr, c'est le plan d'aide personnalisée.
Le PAP.
Le PAP. Ou si le diagnostic est posé, on va au maximum alléger les enfants sur l'écriture, l'orthographe.
Donc ça, il ne faut pas hésiter à les faire mettre en place, ces choses-là, parce que ça, c'est ce qui serait de l'école bienveillante pour les prendre en charge dans leur globalité, avec ce trouble-là et cette particularité-là.
Ça se fait de plus en plus, mais voilà, ce n'est pas toujours évident non plus, avec un grand effectif. C'est pour ça que selon le trouble et l'intensité, on va... mettre aussi des enfants dans des classes spécialisées parfois pour qu'ils puissent évoluer positivement.
Donc il ne faut pas hésiter en tout cas à prendre conseil, à s'entourer, à aller voir des professionnels et aussi évidemment les référents à l'école. Merci beaucoup toutes les deux pour cet éclairage positif sur la dyslexie. Les personnes qui en souffrent ont des tas de capacités et même parfois encore plus de talents que les autres et le message est bien passé ce matin. On passe à quoi maintenant Mélanie ?
À notre séquence tendance bien sûr, c'est dans un instant dans Bienfait pour vous, il y aura la chronique lecture jeunesse de Nathalie Le Breton, des livres pour parler de ce qu'est l'adoption avec nos enfants. Et puis on écoutera aussi les conseils beauté de Maud Ravier. Aujourd'hui, elle a des tas d'astuces pour nous, pour un maquillage parfait en été. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi en direct. Alors à présent, on va débuter notre partie tendance, ces bons plans pour prendre encore davantage soin de vous et de vos proches. Alors pour cela, elle est déjà avec nous, c'est Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour.
Alors aujourd'hui dans votre chronique, il y aura des livres pour nos petits pour aborder un sujet pas toujours facile. Hein.
Oui, l'adoption, mais vu du côté des enfants qui sont adoptés.
Ah, c'est intéressant.
Il leur faut des histoires. Ouais. Il leur faut des histoires, ils ont besoin de s'inscrire dans une histoire.
Parfait, Nathalie, vous restez avec nous, d'autant que je suis certaine que vous qui vivez dans le coin où il fait très chaud, où il fait très chaud toute l'année, hein, vous allez adorer les conseils de notre chère Maud Ravier. Bonjour Maud.
Bonjour.
Alors on va parler maquillage pour être fraîche pour les beaux jours.
Tout à fait, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne surtout pas paraître trop poudrée ou trop crémée, quoi. Ça va pas au soleil. Ça.
Ah non mais ça, vous avez tellement raison Maud Ravier. Moi quand je viens de Cannes, alors
c'est tout et pas.
Et c'est pas beau la poudre quand il fait chaud, on a l'impression d'être...
Ça fait un plâtre, c'est pas très élégant.
Donc, vous me confirmez qu'il faut adapter son make-up au changement de saison ?
Alors, on va laisser effectivement respirer la peau parce que cet effet trop chargé, trop poudré peut vraiment devenir, peut manquer de naturel. Mmh. Donc, évidemment, on va changer la routine maquillage.
Bon, alors comment on réussit, s'il vous plaît, Maud, un maquillage frais et ensoleillé ?
Alors, donc, soyez attentifs, je vais vous dévoiler toutes mes astuces pour paraître très, très, très fraîche cet été.
Toute l'année, alors.
Alors déjà, merci beaucoup. On prépare sa peau. Donc ça veut dire qu'on va éviter les crèmes trop grasses. On va chercher des textures plus légères, plus hydratantes, plutôt des sérums.
Mmh. Vous changez-vous de crème de jour, là par exemple, d'hydratation en fonction de la saison?
Oui, complètement. L'huile, j'adore ça. Mais malheureusement, quand il fait trop chaud, après on a tendance à briller. C'est vraiment pas très très élégant. Donc voilà, comme je vous disais, on va plutôt privilégier des textures gel. Mmh. Et puis pour le teint, on va complètement oublier les fonds de teint trop lourds, trop poudrer, encore une fois, on va prendre plutôt des bébés crèmes.
Oui, alors expliquez-nous, les bébés crèmes, c'est comme du fond de teint, mais en plus léger, c'est ça ?
Alors, tout à fait, c'est beaucoup plus fluide, ça permet de continuer à avoir, entre guillemets, des petites imperfections, en fait, la transparence de la peau. Et pour l'été, moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter des sérums solaires qui permettent, en quelques gouttes, d'avoir un effet aussi protection de soleil. Donc, moi, j'adore, par exemple, la Barbara Sturm, elle est géniale. Donc, ça s'appelle Sun Drop, il y a 50 CPF, donc c'est énorme.
Très protecteur.
Et ça permet d'avoir toujours l'effet léger, quoi, encore une fois, sur la peau.
Donc, ce que vous nous dites aussi, c'est de mettre des produits solaires dans notre bébé crème, par exemple.
Mais oui, ça, c'est une super astuce. Ça évite d'avoir, parce que souvent, les écrans total, ils sont...
C'est un peu épais sur la peau.
Ils sont épais, un peu blancs et ils sont gras aussi.
On peut continuer à mettre de l'anti-cerne ou pas?
Tout à fait, on va mettre de l'anti-cerne, parce que là, par contre, la bébé crème, elle n'est pas assez efficace. Donc, sur les petites imperfections, les petits boutons, évidemment, on va aussi continuer à mettre de l'anti-cerne.
Plutôt crème, l'anti-cerne, autrement ça marque trop s'il est poudré, non ?
Oui, surtout pas de, encore une fois, surtout pas de poudré. En fait, il va vraiment falloir privilégier des textures légères.
Un peu grasse, finalement.
On peut mettre un peu de blush aussi, quand même, sur les joues.
Alors, évidemment, vous allez pouvoir mettre un petit peu de blush. Vous pouvez privilégier au niveau du haut de la pommette. Mm-hmm. Alors, suivant comment vous êtes habillée, vous pouvez mettre des abricots ou des roses. C'est très joli pour le teint. Et vous pouvez aussi faire un petit rappel au niveau de la paupière. Ça, c'est très joli.
Moi, je fais ça, oui. Est-ce que je me mets sur la joue, je me le mets sur la paupière.
Exactement. Paupière, bout du nez. Et une petite astuce aussi, c'est sous le menton.
Ah oui, ça creuse un peu, c'est ça ?
Oui, et ça révèle, pareil, un teint lumineux.
Et ça, votre secret, Julia, en fait ? Non, moi, mon secret, c'est l'highlighter.
L'highlighter, c'est quoi, ça ?
Oui, l'highlighter. L'highlighter, on le met au niveau, pareil, du haut des pommettes, sous le sourcil.
Et c'est quoi ?
En fait, ça donne un effet volume, parce que ça renvoie la lumière.
C'est une poudre blanche, plus blanche,
c'est
poudre ça plus clair.
C'est une poudre plus claire et légèrement pailletée, irisée. D'accord. Par contre, on n'en abuse pas, parce que si on en met un peu partout, on va paraître brillante, de nouveau.
À quel endroit, donc, je mets l'highlighter ?
Donc, haut de la pommette, sur les arêtes du nez, au-dessus, sous la queue du sourcil, on n'hésite pas, et le coin interne de l'œil pour le côté très lumineux.
Et là, c'est vraiment très très joli quand le soleil brille à un moment donné.
Exactement.
Vous reflétez tout ça, c'est magnifique.
C'est une pro.
Mais alors justement, une fois que le teint est fait, est-ce que vous avez des conseils aussi pour les yeux ? C'est important, ça ne faut pas que ça coule notamment.
Oui, alors tout à fait. Donc moi, je privilégie quand même pour l'été le mascara waterproof, mais pas tout au long de l'année parce que ça assèche quand même et quand on le retire, ça abîme un petit peu les cils.
C'est pas évident d'en trouver des aussi épaississants et allongeants, je trouve. Ils sont moins bons. bons, moi, je trouve, en waterproof.
Bah, ils sont toujours un peu plus secs, en fait, parce qu'on leur demande, voilà, de pas couler justement et de supporter tout ce qui est chaleur et humidité. Donc, vous allez maintenant pouvoir trouver aussi des crayons eyeliner que vous pouvez poudrer. Vous allez pouvoir trouver toute une gamme waterproof très élégante. Parce qu'avant, c'était pas très élégant tout ce qui était waterproof. C'était des substances un peu fortes toujours.
Bon, on est d'accord qu'on oublie le fard à paupières en vacances, non?
Le fard à paupières, ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut aussi trouver des fards à paupières avec des indices. Et on sait que les paupières sont très fragiles. Oui. Les paupières sont très fragiles, donc on les protège du soleil aussi. Et ça permet d'utiliser, donc en utilisant ces fards, ça permet de ne pas utiliser les crèmes qui ont tendance à couler dans les yeux et qui ont tendance à irriter les yeux.
Vous êtes rentrée dans le studio en me disant, oh là là, t'as fait des extensions de cils. Mais pas du tout, ce sont les vrais. Mais vous nous conseillez les extensions de cils.
Mais oui, pour celles qui ont peur, voilà, du mascara qui coule, etc., les extensions de cils, c'est quand même magique pour l'été. Ça nous libère, on peut faire des plongeons, on peut faire tout ce qu'on veut et ça ne coulera jamais.
Et les sourcils, ça coule aussi ou pas?
Les sourcils. Alors c'est toujours pareil. Moi, je dis qu'il faut vraiment mettre en avant le sourcil. C'est quand même la base du maquillage. Si vos sourcils ne sont pas faits, je trouve que le regard est triste. Donc, on minimise les fonds de teint, on minimise le make-up, mais le sourcil reste quand même un élément très très séducteur pour l'été.
Bon, et la bouche, Maud, on fait quoi pour la sublimer en été?
On garde les encres qui tiennent, les fameuses encres 24 heures. Donc du coup, encore une fois, ça ne bouge pas. Ou sinon, vous privilégiez tout ce qui est baume teinté pour l'hydratation profonde de la lèvre qui souvent est quand même très fragilisée quand il fait
beau. M'excusez, mais je suis restée bloquée sur les encres. C'est quoi ça, les encres?
C'est comme de la laque un peu.
Oui,
hein, vous connaissiez vous, Nathalie, les encres pour la bouche? J'ai l'impression qu'on a, il y a deux clans là. Il y a Nathalie et moi et Julia et Maud. Hein, voilà.
Non,
on en apprend. Je pensais qu'elle parlait des encres du bateau. Vous voyez, on est sur une chronique d'été.
Non, les encres, ça permet de vraiment donner un effet lèvres mordues fraîcheur. Et vous pouvez aussi mettre sur les pommettes. Ah, ça donne un effet bonne mine.
Oh là là,
on se comprend, Julia, on se comprend.
Une encre à bouche, hein, c'est ça?
Oui, c'est d'accord. Permanent en fait. Ça ne bouge pas. C'est ça qui est génial.
Juste 24 heures. Parce que vous dites que ça tient 24 heures.
Ça peut tenir 24 heures. Si c'est pas démaquillé, c'est vraiment une tenue 24 heures. C'est incroyable.
Aller faire la fête à Ibiza, Nathalie. Ça tiendra. Eh bien, merci Maud de nous avoir livré tous vos secrets pour un maquillage parfait, même sur la plage. Allez, on va se tourner justement maintenant vers notre Madame Livre pour enfants. C'est vous, Nathalie Loubreton. Nathalie, bonjour. Alors, on le sait, les familles sont plurielles, les enfants sont différents, mais ils ont en tout cas tous besoin d'avoir accès à leur histoire, comme vous le disiez tout à l'heure, pour se construire. Mais pour les enfants adoptés, c'est pas si simple. Selon vous, est-ce que les albums pour enfants peuvent être particulièrement utiles? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
Mais oui, parce que ils racontent des histoires, ils donnent des mots, ils incitent à parler aussi. Et c'est vrai que notre rapport à l'adoption a énormément changé. Et aujourd'hui, vous savez, on a lu beaucoup d'histoires où on entendait, où on voyait, si vous voulez, l'attente des parents avec cet enfant, les nombreux voyages qu'il fallait faire. Et les livres aujourd'hui tiennent compte de l'enfant. Et il faut arriver à tenir compte du point de vue de l'enfant, ce qui n'est pas évident puisqu'on apprend à se connaître. J'ai un très joli livre d'Ingrid Chabert et Stéphanie Augusso. Ça s'appelle « Un jour, mes parents viendront ». Ce sont les Belges, les éditeurs belges Alice qui ont sorti ce livre. Très très joli livre, sobre, où là en gros, on voit une petite fille qui vit dans un monde qui est relativement colorée, donc elle a la joie en fait des enfants, mais elle est entourée de murailles. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas être libre, elle ne peut pas s'enfuir, mais pour autant elle a des rêves et elle voit tous ses petits copains partir au fur et à mesure, qui sont accueillis par des familles. Elle rêve d'avoir une vie comme les autres, elle rêve d'être légère, elle rêve de voyager, d'aller à l'école, etc. Et puis il y a un moment donné, un jour, c'est son grand jour, il y a une famille qui vient l'adopter, et en fait ce qui assez fort, c'est que ce qui est dit dans ce livre, c'est que bien sûr, elle est contente, mais elle n'est pas encore prête au grand câlin, au grand bisou. Elle a été un peu en suspens pendant tout ce temps et il lui faudra, elle aussi, du temps, et c'est ce que dit ce livre, à partager bien sûr avec les familles qui viennent d'adopter tel ou tel enfant.
Alors, outre le passage à l'orphelinat, ces enfants se questionnent aussi, bien sûr, sur leurs parents et leur maman génétique dont on a des traces ou pas.
Oui, et c'est ça, bien, c'est une difficulté, mais en même temps, un enfant ne naît pas d'une génération spontanée. Ça n'est pas un champignon. Donc forcément, il y a eu une histoire, il y a eu une femme, un homme, peut-être deux femmes, que sais-je. Mais il vient de ressortir, en fait, ce livre qui est un des grands classiques. Il vient de ressortir en poche, c'est super. Des deux mamans de Petit Roux, ça doit dire quelque chose à Julia Vignali, oui. Qui était sortie chez Gauthier Langros. Très, très bon livre de Jean-Vital de Montléon, qui est un pédiatre spécialiste dans les consultations d'adoption, et de Rebecca d'Autremer. C'est très bien parce que qu'il a pris ce symbole du kangourou qui a une belle poche pour accueillir plein de bébés. Et quelquefois, dans les familles, bah, il y a trop de bébés et on a besoin de confier son enfant parce qu'on ne se sent pas capable. Donc, ou alors, il peut y avoir aussi des poches où il n'y a pas de bébé du tout. C'est ce que nous raconte cette histoire d'un petit kangourou roux qui s'interroge sur sa couleur de peau parce qu'il a des parents qui sont bruns et lui, il ne ressemble pas à ses parents. Donc, vous voyez que l'histoire est somme toute assez classique, mais elle permet d'aborder à la fois la notion maman de cœur et maman génétique, même si on a peu d'éléments sur le passé de l'enfant, sur justement le milieu social ou même le prénom de la maman. En tout cas, c'est toujours important de dire qu'il vient bien d'une maman qui, à un moment donné, l'a porté et bien lui sûr. A donné la vie.
Mais n'empêche, Nathalie, qu'on ne peut pas non plus empêcher ses enfants de fantasmer leur première famille et de se raconter leurs propres histoires. Hein.
Mais oui, et c'est ce que j'aime avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils ont un imaginaire qui est complètement démentiel, très actif. Chut, fait dodo, très bon livre de Dominique Jelin et de Mika, qui est sorti aux éditions de La Bagnole, avec un nom pareil, ce sont des Québécois, vous vous en serez douté. J'aime beaucoup l'histoire de cette petite Marinette qui, juste avant d'aller se coucher, chope sa maman, qui est sa maman de cœur, et qui lui dit « Mais ça y est, maman, je sais. En fait, tu sais, je suis la fille d'un roi et d'une reine. Et en fait, j'ai été enlevée par un petit dragon. Et donc, il m'a laissé tomber, vous m'avez retrouvée, etc. » Et donc, sa maman de cœur rentre dans le jeu, bien sûr, de l'histoire. Elle lui dit « Mais non, je me demande si tu n'es pas née dans un poulailler. » Vous voyez, elle ramène à quelque chose de plus simple, peut-être de plus sobre. « Et tu t'es recouvert de poils, de plumes, de poules, etc. Et puis, d'un seul coup, on a retiré les plumes et on a découvert que tu étais un enfant. Mais non, maman, non. » Ça n'est juste pas possible, ce que tu racontes, ça n'est pas, c'est pas vraisemblable. Non, je suis la fille de star du cinéma.
Ah bah oui.
Et en fait, c'est tellement insupportable d'avoir des parents qui sont dans le cinéma que j'avais une vie trop éprouvante devant les caméras, devant les photographes. Il fallait que j'aille vivre ailleurs. Enfin bon, non, je ne suis pas allée dire ça, Mélanie. Je ne veux pas de problème. Non, enfin, vous voyez qu'elle elle fantasme complètement. Et il y a un moment donné, la mère qui est de cœur, qui est complètement épuisée, lui dit, écoute, tu sais ce que diraient tes parents? Chut, va faire dodo, c'est l'heure de faire dodo. Et ça, quels que soient les parents. Donc là, on revient sur la réalité. Et donc, c'est très bien parce que finalement, peu importe le roman familial, ce sont de belles histoires. Celles que l'on se racontait même quand on n'a pas de parents adoptifs.
Mais bien sûr, moi, je me suis raconté des histoires et j'en ai raconté des pas possibles. Hein. Fille de président et tout. Hein.
En espérant, en rêvant d'autres parents, surtout quand on est fâché avec eux.
Merci beaucoup, Nathalie. Un bien joli thème pour célébrer l'amour maternel. Grand large à quelques jours de la fête des mamans. On retrouve votre sélection sur europe1.fr et vos recommandations sur votre site noticeauton.fr. Voilà, notre émission touche à sa fin, mais nous serons évidemment de retour demain dès 11h. Julien, on va s'intéresser à quoi demain ?
Eh bien, anglais, espagnol, italien ou même japonais. Pour voyager ou s'ouvrir l'esprit, rien de tel que d'apprendre une langue étrangère. Dans Bienfait pour vous, on verra que c'est pas si difficile, notamment avec des méthodes innovantes comme le digital ou même l'hypnose.
Très bien, en attendant, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à présent, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain, quel est le programme ?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Le programme, on va parler notamment des services d'urgence. Certains services d'urgence en France doivent filtrer les patients. Pourquoi ? Bah parce qu'il manque des médecins, il manque des infirmières. Certains services peuvent même fermer. Faut-il obliger les médecins de ville à reprendre les gardes ? C'était le cas, c'était obligatoire avant 2003. Ça a été abandonné. Est-ce qu'il faut reprendre les gardes obligatoires ? On va en parler puisqu'il faut augmenter également les médecins pour rendre le métier plus attractif. On en parle avec vous au 39-21, vous pouvez appeler. Et puis on sera avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et avec Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National. Voilà le programme.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.